Bonjour à toutes et tous. On a un peu plus de temps, mais je vais quand même prendre mon téléphone pour veiller à ce que je déborde pas trop. Je me présente, je suis Jean-François Lutz, je suis bibliothécaire à l'Université de Lorraine. Et vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'un bibliothécaire vient faire devant une assistance d'éditeur? Il se trouve que ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse d'assez près à l'édition, à la fois en tant que membre du COSO et anciennement la BSN, Bibliothèque Scientifique Numérique, et également depuis peu, depuis maintenant 2 ans, en tant que membre du comité de suivi de l'édition scientifique, qui est une instance qui a été mise en place à la suite de la loi pour la République numérique. Et encore tout récemment, j'ai été nommé au conseil de gestion des presses universitaires de Strasbourg. Donc voilà, je ne suis pas éditeur, mais je m'intéresse de près à ces questions. Et je m'intéresse notamment à toutes les questions liées à la science ouverte, à l'open access, comme on disait encore il y a quelques années. Maintenant, on a élargi le spectre et le périmètre. Donc ce que l'on m'a demandé de faire, c'est de vous présenter un peu... comme l'a dit Serge, une vision d'ensemble de ce qu'est la science ouverte et aussi de où en sont les principaux sujets de discussion, où sont les principaux points de tension également, à la fois à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Voilà un peu le plan que je vous propose. Et vous voyez qu'à travers les titres, j'ai décidé de filer une métaphore musicale avec... un petit retour historique qui permettra justement de dresser le paysage des principaux acteurs de la science ouverte, qui est allé crescendo au cours des 30 dernières années. Les questions de stratégie qui aujourd'hui sont assez centrales, puisqu'il y a un certain nombre de désaccords sur quelle est la partition que l'orchestre de la science ouverte doit jouer. Et l'importance aussi de ne pas se focaliser, comme c'est le cas actuellement, sur les seules questions de modèle économique, même si c'est central, mais d'aborder aussi d'autres aspects de l'édition notamment. Et c'est à cette occasion-là que je pourrais vous parler des travaux qui ont été menés dans le cadre du comité pour la science ouverte, avec la mise en place de critères d'exemplarité dont je vous parlerai. Quelques éléments quand même d'introduction aussi et plutôt aussi des avertissements. Le premier, c'est que je vais essentiellement parler de publication. La science ouverte a un périmètre très large qui concerne les données, l'intégrité scientifique. On peut mettre beaucoup de choses sous le parapluie de la science ouverte. Là, on va vraiment parler essentiellement de publication, donc de ce qu'on appelait l'open access il y a quelques années encore. Et deuxième avertissement, c'est que la science ouverte, c'est quelque chose d'assez complexe. Même si on se restreint au champ des publications, et que compte tenu des contraintes horaires, il y aura forcément un certain nombre de simplifications, voire de généralisations. Donc c'est deux choses qu'on n'aime généralement pas trop faire dans le milieu académique. On aime bien être précis, être pertinent, mais c'est vrai que là, compte tenu, donc j'espère que vous me pardonnez par avance peut-être certaines schématisations auxquelles je vais devoir avoir recours. Le crescendo de la science ouverte. Comment est-ce que la science ouverte, telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est le sujet de vos journées, des 9e journées Medici, comment s'est-il développé au cours des précédentes années? C'est un mouvement, alors on peut peut-être même le faire commencer avant le web, avant les années 90, mais généralement on estime que c'est l'invention du web qui a aussi permis le développement de l'open access et de la science ouverte. Et dans les années 90, le premier acteur que l'on voit sur le devant de la scène, ce sont les chercheurs, les communautés scientifiques. C'est le temps des pionniers. C'est un peu dans un orchestre les cordes, donc ceux qui parfois jouent un peu solo, suivez mon regard, voilà, c'est ceux qu'on voit le plus, qui sont en avant, qui servent l'orchestre, la mélodie. Et il y a eu, dans les années 90, un certain nombre de pionniers qui ont vraiment, par les initiatives qu'ils ont portées, créé une rupture. Vous avez ici, alors désolé pour la parité, mais j'ai 3 hommes. Peut-être qu'aujourd'hui, certains mettraient Alexandra Elbakian, la fondatrice de SciHub. Mais dans les années 90, il y a eu Paul Ginsberg, un physicien, qui a créé Archive. Au milieu, c'est Harold Varmus, qui a lancé... PubMed Central et Biomed Central, donc à la fois une archive ouverte et des revues en open access, donc Harold Varmus qui est Nobel de médecine aux États-Unis et Stephen Arnade dans le domaine des sciences humaines et sociales, des sciences cognitives, qui lance une archive ouverte et une revue numérique intégralement en open access dès le début des années 90. Donc voilà quelques exemples de chercheurs qui se sont lancés très rapidement, qui ont vu les potentialités du web pour une communication scientifique directe. Quand je parlais de généralisation, Je dis les chercheurs, bien entendu, c'est très fragmenté, c'est pas du tout monolithique. À cette époque-là, ce sont quelques pionniers, quelques communautés, et aujourd'hui encore, vous trouverez dans vos établissements, vos universités, vos écoles, vos laboratoires, des chercheurs qui ne connaissent pas ce qu'est la science ouverte ou l'open access, et qui connaissent, mais qui ne sont pas convaincus de son intérêt. Donc c'est, encore une fois, un peu schématisé, mais les années 90, c'est les années où les chercheurs commencent à s'emparer des potentialités. Dans les années 2000, on a une phase un peu de généralisation, et ce sont plutôt les institutions de recherche qui s'intéressent à la question, à travers, alors ça pourrait être les vents d'un orchestre, on a peut-être la clarinette du CNRS ou le corps, je ne sais pas, de l'université d'Aix-Marseille, et qui s'intéresse à la question et qui, notamment, vont contribuer à la rédaction d'un texte fondateur. Alors il y a eu la déclaration de Budapest qui explique ce qu'est l'open access, mais deux ans après, la déclaration de Berlin, dans laquelle les établissements de recherche peuvent s'engager à appliquer dans leur sein les principes de l'accès ouvert aux publications. Cette déclaration, c'est, peu de gens le savent, mais le CNRS a joué un rôle important dans son élaboration, a été un des co-rédacteurs de la déclaration de Berlin, et le CNRS a été un des tout premiers signataires de la déclaration de Berlin, et c'est à cette époque-là que le CNRS a contribué à la création d'une archive ouverte pluridisciplinaire avec l'INRIA HAL, que tout le monde connaît, et que le CNRS a aussi contribué à la naissance de revue.org avec l'Université d'Avignon, de Provence et le HESS, qui s'appelle aujourd'hui Open Edition Journals. Donc la France, voilà, c'est un peu les deux fleurons de la science ouverte française qui datent du début des années 2000. D'autres institutions, j'en sélectionne certaines qui sont un peu emblématiques. L'université de Harvard en 2007, qui demande à ce que tous les chercheurs de certaines facultés mettent leurs publications en accès ouvert. En Europe, on a beaucoup parlé de l'université de Liège, on en parle un petit peu moins ces derniers temps, mais pendant plusieurs années, ça a été un peu l'exemple mis en avant pour une politique volontariste portée politiquement de diffusion ouverte des publications. Et je crois que vous aurez notamment lors de la dernière journée une intervention de Bernard Pochet de l'université de Liège. C'est également à cette époque-là que des outils sont mis au point. Alors, une autre plateforme, la deuxième colonne, ce sont les plateformes, hein, Cielo. C'est vrai qu'il y a un focus sur les pays du Nord, mais l'Amérique latine a été particulièrement active et est toujours très active dans le domaine de la science ouverte, notamment avec la plateforme de revue ouverte Cielo. C'est à cette époque-là que des logiciels voient le jour qui aujourd'hui, on les associe pas forcément à des institutions de recherche, mais que ce soit DSpace ou OGS, ont pris racine dans des universités, dans des instituts de recherche, même si aujourd'hui les outils se sont peut-être un petit peu sont devenus un peu autonomes. Et on voit également apparaître des structures de lobbying, on pourrait dire, ou qui vont porter auprès des décideurs politiques, qui vont défendre les principes de la science ouverte, Spark aux États-Unis, mais également en Europe, Eiffel qui est plutôt à destination des pays du Sud. Donc on voit toute une série d'initiatives au cours des années 2000 qui a vraiment une décennie foisonnante dans le domaine. Ça reste là aussi... c'est pas monolithique, il y a beaucoup d'institutions qui restent en marge, tout le monde n'avance pas au même rythme, mais on voit ce phénomène de généralisation, et c'est là que je nous situe, que ce soit vous en tant qu'éditeur public ou nous en tant que bibliothécaire, dans cette phase-là, dans cette période-là, il y a eu une prise de conscience, il y a eu un engagement qui s'est fait. Et je pense qu'on est, si on regarde les acteurs, il y a les chercheurs, les institutions, et je nous inclus dans ce que les institutions, dans la prise de conscience des institutions. Les années 2010, là on parle plutôt de systématisation, ce serait le mot que j'emploierais. Et on voit que la question de la science ouverte est désormais prise à bras-le-corps par les gouvernements, par les institutions gouvernementales. Donc là, c'est les percussions, ça envoie du lourd, hein, pour parler trivialement. Donc c'est vraiment impossible de prendre plusieurs exemples de différents pays. On va se limiter à la France, qu'on connaît bien. Hein, donc là, on a les timbales du ministère de l'Enseignement supérieur, et puis la Caisse claire de l'ANR, qui sont les deux institutions qu'on va voir. La grosse caisse. On a déjà évoqué, le directeur Edlensa a évoqué la loi pour la République numérique, qui a été une étape importante en 2016 de sécurisation juridique du dépôt en archives ouvertes par les chercheurs de leur production scientifique. Et l'été dernier, juillet 2018, l'annonce par la ministre du plan national pour la science ouverte, le fait que ce soit annoncé par la ministre en personne, ça, c'est aussi le signe d'une réelle implication au plus haut niveau du ministère de ces questions de science ouverte. Le ministère donc, ébauche une politique publique en faveur de la science ouverte en France. Et donc ça, c'était le tout début juillet. Puis début septembre, un regroupement de financeurs de la recherche, dont le principal financeur de la recherche français, l'ANR, a lancé le plan S pour Science. Le plan S qui a fait couler pas mal d'encre, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors c'est une diapositive un peu, voilà, un peu plus dense que les autres. Simplement faire un petit point sur le plan S, c'est le signe aussi que j'associe les financeurs de la recherche aux institutions gouvernementales. Et là aussi je schématise un peu parce que certains financeurs de la recherche ont déjà adopté des politiques dans les années 2000, je pense au NIH aux États-Unis, mais en France c'est vraiment, même si l'ANR encourageait au dépôt d'enval, le fait que l'ANR ait rejoint la coalition S et participe à l'implémentation du plan S est quelque chose de particulièrement, c'est une date importante, c'est un tournant important. Que dit le plan S? Il y a eu deux versions, aujourd'hui c'est la version 2, qui a été amendé à la suite d'un certain nombre de retours de la part des communautés de chercheurs, des institutions de recherche. Cette version 2 prévoit une mise en œuvre du plan S à compter du 1er janvier 2021. Et l'objectif, c'est que toutes les publications financées par les membres de la coalition S, dont l'ANR, soient systématiquement diffusées en accès ouvert dès leur publication. Donc sans embargo, aucun. Pas de barrière mobile, pas d'embargo. Les différentes possibilités qui sont offertes sont les suivantes. Soit l'article est publié dans une revue en accès ouvert complet. Il peut y avoir des frais de publication ou APC, même si l'expression n'est pas forcément très, très heureuse. C'est aujourd'hui l'expression consacrée, article processing charge. Les coûts doivent être transparents. Donc là, vaste débat que je vais pas ouvrir. Et peuvent être plafonnés par les financeurs. Deuxième possibilité, on dépose l'article dans une archive ouverte, mais sans embargo. Donc là, on va plus loin que ce que permet la loi numérique. Enfin, la loi numérique permet un dépôt sans embargo, mais elle permet aussi à l'éditeur de fixer une limite. Mais là, ce n'est pas possible. Troisième possibilité, le fait de publier dans des revues dites hybrides, mais uniquement, c'est-à-dire des revues où il n'y a pas d'open access, c'est pas des revues en open access, mais elles sont incluses dans ce qui est appelé un accord transformant. J'en parlerai un petit peu plus tard de ce qu'est un accord transformant. Et ça, c'est une disposition transitoire. Un élément très important du plan S, c'est que le plan S interdit toute cession exclusive des droits à un éditeur. Le chercheur doit conserver des droits et le plan S préconise la licence CC BY. Il y a quelques exceptions pour la CC BY SA et la CC BY ND, mais la CC BY NC, non commercial, n'est pas permise. Par les membres de la coalition S. Des critères de qualité ont été établis. Si vous allez sur le site de la coalition S, vous pouvez regarder pour des éditeurs, pour des revues, pour des plateformes d'archives ouvertes. Un certain nombre de critères, parfois un peu techniques, ont été établis. Les monographies sont incluses dans le périmètre. Simplement, pour l'instant, la position de la coalition S est de dire nous avons bien conscience qu'on ne peut pas traiter de la même manière une revue et une monographie. La politique qui s'applique en 2021 concerne les revues et les articles scientifiques. Pour les monographies, pour les chapitres d'ouvrages, un processus distinct va être mis en place, sans plus de précision à l'heure actuelle. Et puis, il y a peut-être un vœu de voir les éditeurs, les chercheurs, les sociétés savantes travailler de concert. Bon, ça, c'est peut-être effectivement un vœu pieux, mais voilà, il y a cette volonté de voir un travail collaboratif voir le jour autour de cette question de l'open access entre les différents acteurs. Donc voilà pour le plan S qui est, je pense, le signe d'une amplification, d'une systématisation de la science ouverte aujourd'hui. Je pense que tant que c'était les projets européens, Voilà, nous, dans notre université, il y a quelques projets européens, mais ça concerne une fraction relativement faible des chercheurs. Les projets ANR, là, on change complètement de dimension, même si tous les chercheurs ne sont pas porteurs ou ne sont pas associés à une ANR, il y en a quand même largement plus. Donc il y aura un impact direct de cette politique dans les établissements. Et je pense que ça concerne aussi les éditeurs que vous êtes, qui portaient des revues et qui portaient des collections de monographies. Donc l'orchestre est au complet, on a les chercheurs, on a les institutions, on a les financeurs, on a les personnels de l'IST, qu'ils soient éditeurs, qu'ils soient bibliothécaires. Donc tout le monde est réuni là, j'ai envie de dire, dans les années 2010, aujourd'hui, tout est réuni pour que la science ouverte avance. Mais le petit problème, c'est que pour la science ouverte, il n'y a pas de chef d'orchestre. Il n'y a pas de chef d'orchestre pour dire, ben voilà, on va jouer, on va aller dans telle direction. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, et ça m'amène à la deuxième partie, c'est celle de la stratégie. C'est-à-dire que tout le monde, tous les acteurs, y compris les éditeurs privés, que vous avez peut-être remarqué qu'ils n'apparaissent pas dans ma liste des acteurs, mais certains gros éditeurs privés, tout le monde est d'accord pour dire que la science ouverte est quelque chose de très bien, qu'il faut faire la science ouverte, qu'il faut aller dans cette direction, que c'est le chemin de l'avenir, qu'à moyen terme, l'ensemble des publications seront en accès ouvert. Mais quand il s'agit de dire comment on va y aller, les avis commencent à diverger. Donc 100% d'open access à terme, tout le monde est pour. Sur les moyens à mettre en œuvre, c'est un peu différent. Là aussi, je vais schématiser trois stratégies qui ont été mises en œuvre ou proposées au cours des années 2010. La première, c'est en 2012 par le Royaume-Uni. En Grande-Bretagne, un rapport a été commandité pour élaborer une stratégie permettant d'élargir rapidement l'accès aux publications scientifiques par des chercheurs britanniques. Ce rapport qui a été piloté par une chercheuse, Madame Janet Finch, a conclu en disant bah oui, pour élargir l'accès aux publications scientifiques britanniques, bah il faut que le ministère, que l'État mette de l'argent supplémentaire sur la table pour payer les APC de tous les articles qui sont rédigés par des chercheurs britanniques. Donc c'est l'idée de payer davantage pour ouvrir l'accès. Donc c'est ce qui a été mis en œuvre. On verra un tout petit peu plus loin qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni a complètement abandonné cette approche-là parce que ça a coûté énormément d'argent pour un résultat qui est discutable. Deuxième stratégie, en 2015, proposée cette fois non plus par un gouvernement mais par une institution de recherche, la Max Planck Gesellschaft Society, une institution de recherche allemande qui est un peu à la pointe sur les questions d'open access. En 2003, la déclaration de Berlin, c'était justement la Max Planck et le CNRS qui avaient été à l'origine de cette déclaration de Berlin. L'objectif de la Max Planck Society, c'est à travers une proposition qui a été faite comme ça au monde entier, de dire, avec ce slogan de dire, il y a assez d'argent dans le système, il ne faut pas rajouter de l'argent dans le système de l'édition scientifique, simplement il faut inverser ou il faut modifier les flux de circulation d'argent. Leur idée, c'est de dire, on va négocier différemment avec les éditeurs. Aujourd'hui, les bibliothèques payent des abonnements pour avoir accès aux revues, à des bouquets de revues. En parallèle, les laboratoires payent des APC pour voir les articles publiés en open access. Maintenant, on va unifier, on va élargir le périmètre, on va négocier conjointement les abonnements et les APC. Et non seulement cela, mais on va également transformer, c'est-à-dire qu'au lieu de payer des abonnements pour cette somme globalisée, on va payer en gros des bouquets d'APC, c'est-à-dire que les articles des chercheurs de la Max Planck Society chez tel éditeur seront tous en accès ouvert. Donc, le projet de la Max Planck Society, c'est que ça ne soit pas limité aux seuls chercheurs de son institution, mais que cette logique-là, cette idée-là d'avoir des accords dits transformants soit adoptée par tous les autres pays, toutes les autres institutions, et que par capillarité et par effet de masse, les revues, progressivement, la part d'open access dans les revues, si tous les chercheurs de l'Université de Californie, tous les chercheurs suédois, tous les articles des chercheurs allemands, tous les articles des chercheurs britanniques sont en open access, ben la part d'open access dans les revues va à un moment donné passer sur un cap qui va faire basculer la revue intégralement en open access. Donc les collègues de la Max Planck Gesellschaft ont mis en place un projet qui s'appelle Open Access 2020, OA 2020, hein, qui vise un peu à prêcher cette approche-là au niveau international, à recueillir des engagements de la part de consortia nationaux, locaux, et à proposer des accords transformants, donc ces accords signés avec les éditeurs qui inclut les APC et les abonnements, et qui font que les articles de l'institution sont en open access. Ici, vous avez un site mis en place depuis le début de cette année qui les recense, tous ces accords transformants. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il y a notamment les revues de l'American Chemical Society. On voit quelques accords qui ont été signés avec l'Allemagne ou avec la Slovénie, par exemple. Voilà. Alors, cette approche-là, qui est assez séduisante sur le papier, présente un certain nombre de dangers ou d'inconvénients. Elle est très discutée, elle ne fait pas du tout l'unanimité. On n'est pas là pour faire la liste, mais l'une des difficultés, c'est qu'elle s'adresse encore une fois qu'aux gros éditeurs de sciences dures, pour schématiser, et elle laisse de côté toute une série de petits éditeurs ou d'éditeurs qui ont fait le choix de l'open access depuis longtemps, hein, puisqu'on transforme des deals d'abonnement en deals d'APC, mais ceux qui sont en open access, qui ont fait le choix de l'open access depuis longtemps, sont complètement mis de côté dans cette approche-là. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais le temps ne permet pas d'aller en profondeur sur cette question-là. Troisième approche, 2017, l'appel de Jussieu, met en avant l'idée de bibliodiversité. La bibliodiversité, ce n'est pas une invention française, c'est un terme qui a été forgé plutôt en Amérique latine et qui consiste à dire qu'on ne peut pas aller dans un modèle unique, que le constat est qu'il y a à l'heure actuelle plutôt un modèle unique qui se dégage. Et l'appel de Jussieu a perçu dans la proposition de la Max Planck Society le risque d'une approche monolithique, un peu unique, de l'open access avec des APC parfois très élevés. L'appel de Jussieu dit attention, il y a d'autres modèles possibles, et notamment dans son article 8, l'appel de Jussieu dit que la priorité doit être donnée à des modèles économiques de publication qui n'impliquent le paiement ni par les auteurs pour publier, donc pas d'APC, ni par les lecteurs pour accéder au texte, donc de l'open access. Et en encourageant à l'innovation et à l'invention de nouveaux modèles. Donc voilà un peu les différentes approches proposées. Et l'idée, alors ça ne fait pas partie de l'appel de Jussieu, mais c'était sans doute une réflexion qu'on avait en filigrane lorsque le texte a été rédigé. Ça, c'est le recteur d'une université norvégienne qui disait que si on veut l'open access à tout prix, le prix sera très élevé. Et donc si on se focalise que sur l'ouverture, les éditeurs privés vont se faire un plaisir de proposer aux institutions de recherche des modèles qui garantissent leurs revenus, qui certes il y aura de l'open access, mais on n'aura rien changé en fait au système. L'idée de l'appel de Jussieu, c'est de dire il faut que le système évolue profondément. Alors où en est-on aujourd'hui? J'ai dit que le Royaume-Uni a abandonné sa stratégie, donc aujourd'hui quasiment plus personne n'évoque cela. Les Britanniques ont été relativement honnêtes, hein. Il y a eu un certain nombre de publications qui ont analysé leur politique et qui ont conclu en disant voilà, on a essayé et puis ça n'a pas marché. Voilà, donc aujourd'hui c'est plus vraiment sur la table. La Max Planck Society continue et l'initiative OA 2020 prend de l'ampleur. Il y a certaines grosses universités, certains grands consortias qui rejoignent cette initiative. La question de le développement de l'appel de Jussieu, la voix de l'appel de Jussieu résonne encore. Il y a eu un certain nombre de projets pour... les deux ne sont pas forcément antinomiques, hein, on peut très bien essayer de concilier les deux, mais aujourd'hui, le constat est un peu pessimiste quand même. On se rend quand même compte que les stratégies peuvent être relativement éloignées, elles sont loin d'être alignées, que ce soit au niveau international, mais même au niveau national, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'accord, même en France, sur la meilleure stratégie pour avancer. Donc il faut continuer à discuter, continuer à investiguer, continuer à travailler aussi sur des données, sur des faits objectifs, et pas uniquement sur un certain nombre d'a priori. Mais c'est en tout cas aujourd'hui sans doute le nœud des discussions, c'est comment, quelle est la stratégie qu'on adopte au niveau français et quelle est la stratégie qui doit être adoptée au niveau international. Alors peut-être une note plus positive, le 21 octobre prochain a lieu une réunion à Helsinki pour essayer de coordonner les politiques au niveau européen. Et à la fin de cette journée-là, il y a un projet de création d'un réseau des pays qui ont adopté des politiques en faveur de la science ouverte. Donc aujourd'hui en Europe, il y a la France avec le plan national, il y a la Finlande, il y a les Pays-Bas, l'Irlande très prochainement. Donc l'idée, c'est que à 4 ou 5 pays, il puisse y avoir plus au niveau des institutions de recherche, mais vraiment à l'échelle des gouvernements, des représentants des ministères, donc ce sera Marin Dacos qui représentera la France, qu'à l'échelle des porteurs de plans nationaux sciences ouvertes, il puisse y avoir une coordination. Vous avez remarqué qu'on a beaucoup parlé de modèles économiques, d'accords, de deals avec les éditeurs, entre les éditeurs et les établissements. Le problème, c'est que dans une œuvre symphonique, il n'y a pas qu'un mouvement, il y en a plusieurs. Et il serait assez dangereux, je pense, de se focaliser uniquement sur l'aspect économique de la science ouverte. Il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte. C'est ce qui a été notamment le cas dans les travaux du COSO, donc du Comité pour la science ouverte, dont un des groupes s'est attaché à... Le groupe Construire la biodiversité s'est attaché à rédiger des critères d'exemplarité, c'est-à-dire des critères qui vise à proposer un horizon, un objectif qualitatif pour les acteurs de la science ouverte dans le domaine des publications. Donc ce groupe projet avait plusieurs de ses membres sont ici dans la salle, regroupés à la fois des chercheurs, des bibliothécaires, des éditeurs publics, je précise. Il y avait un équilibre également entre les représentants des sciences dures, des sciences douces. Une mission, c'était préparer le lancement du Fonds national pour la science ouverte, donc le FNSO, qui est doté de 3,1 millions pour l'année 2019. L'idée, c'était de préparer ce lancement et d'établir ces critères d'exemplarité. Alors, ces critères se sont beaucoup inspirés, pour le début de la réflexion, d'un article publié en 2015 par Cameron Nellon, Geoffrey Bilder et Jennifer Lin sur les principes des infrastructures de sciences ouvertes, qui est un article relativement court, mais avec vraiment qui a beaucoup inspiré le groupe. Nous avons travaillé sur deux grilles, une grille de critères qui s'applique aux infrastructures et aux plateformes, et une grille qui s'applique à ce qu'on appelait les contenus éditoriaux, donc soit des revues, soit des collections de monographies. Pour chaque critère, on a défini des niveaux d'importance. Certains critères sont considérés comme indispensables, d'autres fortement recommandés, d'autres souhaitables. Et nous nous sommes intéressés à la question de l'économique, à la question du modèle économique, et donc de la viabilité des infrastructures, des revues et des plateformes, mais également à la question de la gouvernance et de l'intégrité scientifique, à la question de la transparence et du cadre légal, et tous les aspects techniques d'interopérabilité, d'accessibilité notamment. Donc on a souhaité avoir vraiment une approche englobante de l'édition scientifique, et ce sont ces critères-là qui sont donc au nombre de 42, qui vont être utilisés pour l'évaluation des dossiers qui seront déposés dans le cadre de l'appel à projet du Fonds national pour la science ouverte. Ces 42 critères ont été élaborés de manière relativement consensuelle. Le seul point où il y a eu discussion assez longue, c'est la question de l'éligibilité des projets qui auront recours aux APC, aux Article Processing Charge. Et donc au final, il a été décidé, on peut pas prôner la biodiversité et restreindre a priori un modèle économique par rapport à d'autres. C'est des projets qui seront éligibles au financement par le Fonds national pour la science ouverte, avec un certain nombre de conditions. Si vous allez regarder les critères, vous pourrez en prendre connaissance. Donc les critères d'exemplarité ont été diffusés avant l'été sur le site Ouvrir la science, le site du COSO. Ils sont à la fois en français et en anglais. N'hésitez pas à aller les consulter. Et donc, encore une fois, ils serviront à l'évaluation des dossiers qui seront déposés dans le cadre de l'appel à projet du Fonds national pour la science ouverte qui s'adresse à vous porteurs de revues, porteurs de collections de monographies. L'objectif, c'est vraiment à travers ces 2,6 millions d'euros en 2019, sachant que c'est un fonds qui sera récurrent. Donc j'avais dit 3,1 millions, mais en fait il y a 500 000 euros qui sont dédiés directement pour le financement de HAL et pour le soutien de HAL, et 2,6 millions restants, donc ça c'est un communiqué du ministère qui date du 2 septembre de cette année, seront versés sous forme d'appel à projet qui devrait être diffusé prochainement. Donc l'idée c'est vraiment d'encourager les éditeurs, les revues, les collections de monographies à basculer dans cette transition vers la science ouverte. Je conclue en reprenant un peu la métaphore musicale que j'ai délaissée ces dernières minutes. On est à Nantes. Nantes a joué un rôle important pour la musique classique à travers un événement annuel qui s'appelle la Folle Journée de Nantes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu y assister. C'est intéressant en regardant comment cette folle journée de Nantes est née, et ça m'a inspiré un certain nombre de parallèles avec la science ouverte. D'abord, la folle journée, c'est ouvrir la musique classique au plus grand nombre, donc c'est un exercice de démocratisation et d'accès le plus ouvert possible aux œuvres de la musique classique. Donc là, on rejoint aussi un des objectifs de la science ouverte. Il y a également une diversité d'interprètes, c'est-à-dire on va avoir plusieurs orchestres qui vont successivement intervenir sur la scène du Palais des Congrès de Nantes, et chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. L'idée de la bibliodiversité, c'est bien celle-là, c'est qu'il n'y a pas un modèle unique, il ne s'agit pas notamment de remplacer le modèle ultra-dominant qu'on connaît actuellement par un autre modèle qui serait hégémonique, il s'agit de permettre à tous les acteurs, petits, grands, commerciaux, pas commerciaux, de pouvoir avoir leur place. La folle journée, c'est aussi intéressant dans la mesure où les œuvres qui sont jouées parfois doivent être un peu recomposées pour rentrer dans les contraintes horaires. Et on voit qu'avec la science ouverte, mais aussi avec le numérique, les objets même de la recherche doivent être recomposés. Est-ce que dans un avenir proche, le format du journal scientifique, de la revue scientifique, aura encore une pertinence ? Est-ce que l'article et les données, on voit bien qu'il y a une certaine convergence. Les articles deviennent des données, les articles scientifiques à travers le text mining, par exemple. Les données peuvent devenir des articles à travers les data papers. Donc on voit qu'on a aussi les objets mêmes qui évoluent. Et dernier parallèle que je trouve intéressant, c'est que la folle journée de Nantes a un impératif de qualité très élevé, c'est-à-dire ça reste des orchestres reconnus, des orchestres de qualité, et la science ouverte vise aussi la qualité scientifique, la qualité éditoriale dont vous êtes des acteurs et dont vous êtes des garants. Je vous remercie.
Merci beaucoup Jean-François, et bravo même. Alors, c'est effectivement un panorama très, très large et très complet, et avec en fait très très peu de simplification ou de généralisation. Plus exactement, il y en a plein, mais elles sont légitimes et elles tiennent la route. Il y en a une quand même que je voudrais dérouler un tout petit peu. C'est quand moi je suis du CNRS et depuis beaucoup trop longtemps, donc j'ai beaucoup d'attachement pour cette maison-là. Mais quand Jean-François dit le CNRS. C'est lui qui a écrit l'accord de Berlin avec d'autres, avec la Max Planck, c'est lui qui a créé HAL, il a immédiatement apporté son soutien à revue.org, le Cléo qui est devenu Open Edition. Oui, mais en fait, en pratique, ce sont des personnes, et ça s'applique à nous tous. N'attendez pas que ce soit une institution qui fasse quelque chose, ce sont les gens qui sont des institutions qui font quelque chose. C'est Marin Dacos qui a fait bien sûr revue.org, c'est Franck Laloué qui a construit, mais il s'est bataillé mais pendant des mois pour trouver des alliances, pour réussir à faire que le CCS existe et que HAL existe. Si le CNRS a signé l'accord de Berlin, c'est parce que Francis André a téléphoné à Roland Romary, qui était au siège du CNRS, qui a été voir Bernard Larrouturou, qui a dit d'accord. Et donc, il a pu sortir son stylo. Et c'est Herbert Grotemeyer qui avait participé à la rédaction, ça tombe bien, il est germanophone, avec les gens de la Max Planck. Donc ces choses-là, il faut bien voir, quand on parle d'institutions, ce sont toujours des personnes qui bossent. Donc vous êtes là, vous êtes des personnes, vous êtes dans des institutions. Si vous attendez qu'une institution vous aide, ça veut dire que vous avez trouvé des alliances à l'intérieur de l'institution, allez-y. Et allez chercher du sou, bien sûr. Peut-être quelques petites questions d'abord. Peut-être quelques questions, point d'éclaircissement, avant qu'on passe à la présentation suivante. Non, c'était parfait. Mais écoute, j'ai vu personne dormir, hein, je vais regarder. Donc, on va passer à Isabelle.